Bonjour à toutes et à tous, René avec vous, l'antenne de Radio Campus 106,6 FM pour, comme chaque premier samedi du mois entre midi et 13h, le magazine Ondes de Chine. Ondes de Chine, l'atelier radio des étudiants chinois de Lille. Une fois par mois, un thème ou des thèmes différents. Aujourd'hui, on va parler d'art, d'art classique chinois et d'art contemporain. J'ai invité aujourd'hui des étudiants de l'ex-RCEP, maintenant qui s'appelle l'ESA, qui est l'École supérieure d'art Nord-Pas-de-Calais. Donc, ces étudiants viennent de Tourcoing, ils viennent étudier à Tourcoing, et on aura l'occasion dans quelques instants de leur donner l'occasion de se présenter et d'expliquer leurs projets et ce qu'ils font à Tourcoing et ce qu'ils vont faire ensuite quand ils rentreront en Chine ou ailleurs dans un pays du monde. Voilà, donc j'ai invité tout d'abord Jin Sui qui est déjà venu dans cette émission. Bonjour Jin Sui.
Bonjour.
Donc tu es étudiante dans cette école qui s'appelle l'ESA.
Oui.
Et tu connais beaucoup d'étudiants chinois là-bas puisqu'ils sont arrivés de plusieurs villes. On va les présenter dans quelques instants. Donc dans cette école, toi tu es étudiante, élève depuis combien de temps?
Depuis... 3 ans.
3 ans, d'accord.
Oui.
Tu as encore une année à faire?
Oui, cette année je suis en 5e année.
D'accord. Ce sont des études longues quand même.
Oui.
Donc toi aussi tu étais auparavant en Chine dans une école, tu as terminé ton cursus de licence je crois?
Oui, c'est ça. Avant j'étais une étudiante de l'école Beaux-Arts à Tianjin. J'ai obtenu mon diplôme en 2005, c'était Bac plus 4, voilà.
Voilà, donc avec toi et avec tes invités, on va découvrir aujourd'hui ce parcours d'étudiants chinois qui sont venus en France, notamment à Tourcoing. Et donc ce sera dans quelques instants sur Radio Campus. Jusque-là, place à la chanson chinoise, bien sûr. Voilà, on va faire un petit tour de table donc de nos invités. Et tout d'abord avec Tiachi, bonjour.
Bonjour.
Donc toi tu es
Je suis dans 5e année.
5e année,
oui.
D'accord. Et tu viens de quelle ville?
Henan. C'est la province de
Henan. C'est la province, ouais.
Et puis mais je fais mes études en Chine, c'est à Xi'an.
Ah, Xi'an, ouais. D'accord. Alors à côté c'est... Kun.
Bonjour.
Bonjour. Donc, toi, tu viens de quelle ville?
Je viens de Tianjin, comme Jinchui.
Oui.
J'ai fini mon étude à Beaux-Arts de Tianjin aussi, pour peinture à l'huile.
Yao Hong.
Oui, c'est moi. Oui. Et moi, je viens de la province de Liaoning, et la ville de Yingkou, c'est face à la mer. Voilà. Et moi, je prenais le cours dans l'école des beaux-arts de Lushu, comme Gun.
Tu es en quelle année?
Et ici, moi, je suis troisième année.
Troisième année.
Oui.
Waiting.
Bonjour, je viens de Xi'an, Shaanxi, et maintenant je apprends mes études à l'ESA en troisième année.
Très bien. Ken.
Bonjour, je m'appelle Ken et je viens de Dalian. J'ai fini mes études à l'ERCEP il y a 2 ans. Mm-hmm. Maintenant je travaille à Alphabib.
Thier.
Bonjour, je suis Thier, je viens de Wenzhou, Zhejiang. J'ai obtenu le diplôme de master en l'université normale East Chine, Chine en Shanghai.
D'accord. Voilà, donc on va un petit peu expliquer ce cursus de l'école qui est ici à Tourcoing, l'ESA, avec donc on a bien entendu des étudiants qui sont en troisième année, d'autres en quatrième année, d'autres en cinquième année, et même Ken qui est sorti du système, on va dire. Il nous expliquera dans quelles conditions et son projet d'avenir s'il en a encore dans le domaine de l'art. Voilà. Donc tout d'abord, on va demander aux étudiants qui sont en troisième année de nous expliquer quand est-ce qu'ils sont arrivés ici, comment ça s'est fait, s'ils sont passés par leur école dans le cadre d'un partenariat avec cette école de Tourcoing, et aussi qu'est-ce qu'ils attendent de ces études ici en France. Donc, ceux qui sont en troisième année, levez la
main. C'est Yoron et Wenjing.
Ok. Donc Yoron,
oui.
Quand tu es arrivé ici, au départ, dans quelles conditions tu as pu le faire? Dans le cadre d'un échange?
Moi, je vais ici prendre le cours dans la deuxième année. Et ensuite, j'ai trouvé différentes en Chine. Et dans l'école des beaux-arts en Chine, je prenais que les cours de peinture. Et ici, je prenais vidéo, céramique et gravure, et, etc. Et c'est toute une nouvelle façon sur l'art. Et moi, je suis plus intéressant parce que ici, on travaille et on peut utiliser différentes façons et montre les travaux, les idées. Et en Chine, c'est parce que moi, je prends la peinture à l'huile en Chine. Donc, si l'idée, c'est que montrer par le toile, la peinture, et voilà.
Donc, l'école dans laquelle tu es en Chine, elle t'a un peu délégué pour venir ici. Elle t'a permis d'entrer dans le cadre d'un échange avec cette école de Tourcoing, ou c'est toi qui as fait une demande très particulière, ou est-ce que c'est ton école qui t'a poussé à venir ici?
Et moi, je viens ici, actuellement je travaille pas beaucoup sur la peinture. J'ai essayé beaucoup de façons, les vidéos et la céramique est un objet, le cours d'objet, faire le volume. Et actuellement, je travaille sur le sujet habitat nomade. Et je crée le nouvel urbain, j'ai fait beaucoup de croquis, de petits dessins. Et moi, je plus intéressant faire différentes choses.
Mmh. Ouais. Néanmoins, ce que tu as appris en Chine, est-ce que ça te sert actuellement? Ou est-ce qu'après, ça te servira aussi dans la suite de ton travail? Qu'est-ce que ça t'a amené, cette formation de base classique en Chine?
Ici, moi, je trouve, cherche le truc, peut-être qu'il vient, comment dit-on, les choses, on trouve les choses plus petites, mais après, lancer. Après lancer beaucoup de choses, dire beaucoup de choses. Mais en Chine, je trouve c'est différent ici. C'est d'abord montrer le grand niveau. Après, c'est trouver les choses profondes. Mm-hmm. C'est, je trouve différent.
Mm-hmm. Oui. Wei Qing, pour toi, cette culture chinoise dans l'art que tu as appris en Chine, est-ce que c'est très important? Est-ce que tu gardes ça profondément en toi? Est-ce que ça te sert? Est-ce que tu sens que ça t'amène autre chose que les étudiants qui sont dans cette école en France, mais qui n'ont pas cette formation à l'art chinois? Est-ce que tu crois que c'est un plus? Comment tu ressens une certaine différence par rapport aux étudiants qui sont arrivés directement à Tourcoing, qui sont français par exemple?
En fait, en Chine, ma spécialité est enseignement des beaux-arts. Donc, j'ai essayé beaucoup de matériaux dans l'art, peinture à huile et après les traditionnelles chinoises. Tout ça, entre France et en Chine, la différence, il y a une question sur symbolique, je pense, parce que quand j'étais en France et je rencontrais les questions sur le symbolique, parce que les profs de français, ils m'ont déposé une question, pourquoi vous toujours utilisez le symbolique? Parce que pour moi, je pense, dans la culture chinoise, le symbolique, c'est normal, c'est général. Je pense que les profs vont comprendre. Mais en fait, il y a différentes. Ici, il a besoin beaucoup de références et beaucoup de documentaires pour faire une travail. Et donc, je pense que ça, c'est un peu différent.
Donc quand tu dis que les symboles sont importants dans l'art classique chinois, hein, c'est
oui,
ça hein,
c'est d'accord vrai.
Ça permet peut-être à des Chinois de tout de suite évaluer une œuvre, non?
Oui.
Là, je passe la parole à tout le monde un peu, c'est-à-dire, est-ce que c'est plus facile d'évaluer une œuvre en Chine, dans la mesure où il y a des codes, il y a des références, il y a des symboles qu'on peut retrouver plus ou moins bien traités, donc ça donne tout de suite un avis, un éclairage sur l'œuvre, par rapport à en France, où on ne sait pas trop, en fait, quels sont les critères de jugement ou de valeur par rapport aux œuvres qu'on voit. Voilà, le débat est lancé.
Je crois que l'art contemporain en Chine, c'est, on dit c'est sans racines, parce que ça vient d'arriver il y a depuis l'année 80. Donc le façon de on apprend de l'art contemporain, c'est par rapport d'abord c'est par rapport à l'image. Au début c'était magazine, après c'est sur internet. Donc on n'a pas l'origine de cet domaine. Donc souvent l'artiste maintenant aussi on manque un peu de raison pour travailler pour travailler sur objet d'art. Comparé ici, en fait, il y a un grand système de référence. Par exemple, l'année 60-70, l'art conceptuel qui est en France. Donc, il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de philosophie par rapport à l'art contemporain. Donc, quand on commence à travailler sur le sujet de l'art contemporain, il faut réfléchir plus que l'artiste chinois, je crois.
Alors, par rapport au public maintenant, le public qui voit un travail, une œuvre présentée, il n'imagine pas toujours la pensée qui a amené à ce travail de la part de l'artiste. Pour lui, il peut être parfois un peu désemparé face à une œuvre qui est, comme tu le dis, conceptuelle. Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour un Chinois d'aborder une œuvre classique chinoise qu'un Français d'aborder une œuvre conceptuelle? Je parle du grand public, hein, pas forcément des spécialistes.
Ah, en fait, parce que ça fait tellement longtemps que les Français et les Occidentaux qui regardent l'œuvre conceptuelle, donc j'ai l'impression qu'on a déjà habitude en France pour regarder un objet incompréhensible. Même à l'école, il y a même les élèves français souvent disent on fait un sujet, mais il faut avoir une apparence subtile ou incompréhensible pour pour reprendre l'air de art contemporain, en fait.
Ouais. Ouais. Il y a quand même parfois, c'est dénoncé, hein, un peu de supercherie, des gens qui se disent artistes, mais qui n'ont pas forcément ni une technique évoluée. Et après, on peut imaginer que l'idée qu'ils ont, bon, ben, peut-être qu'ils ont un bon concept, hein, mais je veux dire que par rapport au public, ça ne prend pas forcément toujours.
Oui.
Tout le monde n'est pas conquis immédiatement.
Oui. Mais là, c'est pas pour tout le monde.
C'est pas pour tout le monde.
Oui. Et puis en Chine, c'est l'art contemporain, c'est beaucoup connecté avec le marché d'art. Donc, pour le collectionneur, il y a des gens, c'est tellement différent, en fait. Donc, il faut des artistes toujours penser. Faire comprendre un peu pour partager, pour faire comprendre aux collectionneurs pour sera vendu, en fait. Mm-hmm. Mais en France, il y a un système de marché d'art en France, mais aussi il y a un grand système de résidence artiste, par exemple, ou bien le système scolaire, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est un peu plus équilibré que les autres pays émergents, en fait. Émergés.
Alors, c'est vrai qu'à Pékin, il y a des lieux d'art très importants. Il y en a beaucoup maintenant. Hein. Il y a des quartiers complets, des friches industrielles complètement réaménagées en lieux d'art, où on présente l'art contemporain qui est, on va dire, dans la tendance. On ressent quand même beaucoup d'influence occidentale, non ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, oui. Mm. Oui, ça, c'est sûr.
Alors, ce que j'ai vu à Pékin, avant, j'avais vu aussi à Shanghai. Et là, peut-être que Thier pourrait me renseigner. Donc, à Shanghai, il y a aussi des lieux d'art très importants où on produit en grande quantité, on va dire, de l'art contemporain, des friches industrielles où il y a des ateliers d'artistes. Il y en a énormément également.
Oui, en Shanghai, c'est plutôt, il y a beaucoup d'artistes sur l'art de contemporain. Dans mon étude, je regarde l'exposition pour l'installation, c'est l'art contemporain, sur l'art contemporain. Beaucoup de vidéos, c'est là, comme on dit, Shanghai Shuangnian Zan.
Le biennale
de Shanghai.
Quand on est artiste comme toi tu l'es et même professeur à Shanghai, donc, il y a déjà à Shanghai beaucoup de choses dans l'art contemporain. Pourquoi tu éprouves le besoin de venir en Occident, en France? Comment ces artistes qui sont à Shanghai, eux, ont découvert l'art contemporain? Comment ils sont intégrés à ça? Est-ce qu'il y a des écoles qui les ont formés et où ils ont appris ou eu l'idée de faire autre chose que l'art classique chinois?
C'est différentes choses. C'est l'art contemporain en Chine, il manque de racines. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. Parce que j'ai vu l'exposition, mais je n'ai pas comprendre bien l'art contemporain. Mm-hmm. Pourquoi il fait ça? C'est la raison. Je viens de France pour apprendre l'art contemporain. C'est autre chose. C'est France. Pour moi, c'est la utopie pour l'art.
Effectivement, en Chine, il y a beaucoup d'artistes chinois qui, on va dire, font de l'art contemporain, qui travaillent dans leur ateliers et qui produisent des choses très intéressantes. Hein. Toi, tu dis peut-être qu'il manque cette racine et peut-être la connaissance de ce parcours, de l'histoire de l'art contemporain, des différents mouvements, des tendances, etc. Qu'est-ce qu'une école comme l'ESA à Tourcoing apporte? Est-ce qu'elle t'apporte l'histoire de l'art, des exemples, des professeurs qui ont cette connaissance et qui apprennent à ses étudiants donc les différentes manières de produire des choses, des œuvres d'art?
Peut-être c'est la professeur en France, il est présenté quelques références sur l'art contemporain pour recherche. Dans l'internet, on peut regarder beaucoup de l'exposition de l'art contemporain.
Toi, tu es professeur en Chine, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça.
Depuis combien de temps?
Non, c'est parce que avant j'ai obtenu le diplôme de master, j'ai enseigné, enseigné la peinture en lycée.
Oui.
Après, j'ai obtenu le diplôme, j'ai enseigné la peinture et dessin dans l'université Xiamen et l'université Wenzhou. Mais c'est juste enseigner la peinture et dessin. C'est différent de choses que l'art contemporain.
Est-ce que tu vois dans l'enseignement une vraie différence entre les professeurs ici en France, hein, dans leur façon d'expliquer, d'enseigner, par rapport aux professeurs en Chine?
Il est très différent. En Chine, on peut enseigner beaucoup de techniques de l'art classique. Mais en France, on peut libre, on peut rechercher par moi-même. La professeure, peut-être, il est, montre beaucoup de références. Il m'aide. Développe mon projet.
Alors, si j'ai bien compris, Jiaqi, en France, on passe autant de temps à chercher l'idée qu'à réaliser l'œuvre, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc, la première question, c'est quand tu crées une œuvre, tu es dans un moment important où toi, tu te remets en cause, tu cherches tes idées?
Bah, en fait, pour moi, j'ai une idée d'abord. Mm-hmm. J'ai une idée, peut-être il y a quelque chose qui me donne une perception, et puis je trouve qu'il y a un point intéressant pour moi, et puis je veux faire quelque chose sur ce point, à la façon de l'art. Mais quand j'étais en Chine, faire les études, c'est pas comme ça. C'est les profs qui me donnent un projet. On dit, par exemple, aujourd'hui, on fait les peintures sur la nature morte. Ben, on fait les peintures sur la nature morte. Et puis après, par rapport à ton peinture, et le prof, il posait des questions et sur ton peinture, sur ton tableau, quel point c'est intéressant pour toi et comment tu penses ton idée sur ton peinture, pourquoi tu sers la couleur comme ça, pourquoi tu fais une dimension comme ça. Je trouve c'est différent. En Chine, c'est des projets d'abord et idées après. Et je travaille en France, c'est idée d'abord et le projet après.
Donc tu veux dire que chaque œuvre que tu crées, c'est une aventure.
Voilà.
Donc c'est un moment de vie au travers d'une œuvre que tu réalises.
Oui, on peut dire comme ça. Mmh. Oui.
Et maintenant, une fois que tu as créé l'œuvre qui est très personnelle en général... Hein,
oui, maintenant oui.
Comment après tu trouves un public? C'est-à-dire comment tu intéresses quelqu'un? Parce qu'on parle aussi de marché derrière, non?
Le marché, pour le marché, je ne connais pas beaucoup. Mmh. Je connais moins quelqu'un. Pour vendre mes œuvres, ce n'est pas le plus important.
Oui, pour moi, maintenant je suis étudiant. Et créer une œuvre, c'est mon métier. Et pour le vendu, je vraiment pas penser beaucoup. Mais en fait, je crois que pour ça, c'est un grand travail pour mon travail futur. Pour comment vendre, pour comment connaître par public. Mais pour moi, maintenant, en fait, je lis un livre pour c'est Sigmund Freud qui par rapport à l'artiste qui parle la différence entre artiste et public, qui dit artiste il a une force très très bizarre, pas bizarre, c'est très très fort, une force artiste qui peut transformer la vie imaginative en réalité. Donc je crois que cette phrase c'est qui m'intéresse beaucoup parce que quand je travaille sur l'art plastique, je souvent transforme mon imaginé. Donc en fait, pour un travail, c'est toujours pour moi-même. C'est un petit peu comme ça. Donc quand je transforme j'aimerais bien les gens qui connaissent quelques expériences comme moi. Pour ça, c'est mon souhait. Ça veut dire que je ne suis pas sûr, peut-être les gens qui connaissent ou ne connaissent pas. Donc, c'est pour ça, c'est mon travail.
Mm-hmm. Moi aussi, j'en vais parler un peu sur ce point-là. Parce que moi, je travaille sur l'art, mais de l'autre côté, je travaille sur le design aussi, parce que j'étais à Beaux-Arts de Lushun dans le département de design objet. Mais moi, je travaille sur le design, c'est juste pour la vie, pour gagner un peu l'argent, puisque je peux continuer à vivre en France, vivre ma vie d'art, en fait. Mais au début, j'ai changé comme domaine d'art, et tout le monde me dit que tu fais une œuvre d'art très design, très propre ou bien très favoriser les gens, en fait. Donc, en fait, c'est les artistes qui n'aiment pas ça. Des artistes qui aiment bien les idées pures et très personnelles. Mais par contre, le design, c'est il y a client, donc il y a design. Donc il faut penser aux autres pour réussir, en fait. Donc c'est le domaine complètement différent, en fait.
Voilà, on va parler maintenant de marché de l'art et notamment avec Lille Art Fair, un événement donc annuel maintenant qui se passe à Lille où les galeries d'art présentent des œuvres d'artistes et c'est l'occasion pour le grand public comme pour les professionnels d'échanger. Voilà. Jin Sui, donc toi tu es déjà allé voir cet événement donc qui se passe au Grand Palais de Lille?
Oui, j'ai visité l'année dernière. Il y a beaucoup de galeries internationales qui rejoignent ensemble à Lille, au Grand Palais. Moi, je trouve que c'est une occasion pour voir les différents artistes dans différents pays. Les styles sont différents, les cultures sont différentes. Ça, c'est très intéressant. Et par contre, on a vu beaucoup de la peinture, la sculpture, et aussi ça a commencé à montrer la vidéo. Ça veut dire, comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur le domaine de l'art contemporain, qui utilisent les différents matériaux, qui font installations. Mais des fois, c'est difficile pour trouver le marché d'art. C'est difficile pour lui trouver sa place dans le marché. Mais maintenant, je trouve que ça a commencé, il y a l'occasion pour montrer la vidéo, l'installation. Donc, je trouve que c'est le moment. Voilà.
Donc, Lille Art Fair, eh bien, c'est du 12 au 15 avril. Donc, c'est cette semaine qui arrive. Hein?
Oui.
L'occasion donc de découvrir des œuvres de différents styles. Il y a même des écoles qui présentent aussi les
travaux
de leurs élèves.
Oui, je pense que notre école va présenter ateliers de gravure et aussi il y a d'autres ateliers qui vont présenter comme l'année dernière.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans cet événement l'année dernière? C'était l'art contemporain d'une manière générale ou certains styles particuliers?
Les deux. L'année dernière, j'ai trouvé il y a des galeries qui présentent les œuvres traditionnelles, enfin, classiques de la peinture, le dessin. Et aussi, il y a des galeries qui présentent la performance, la vidéo. Il y a le Frénois qui présente ses artistes. Et je trouve qu'il y a beaucoup de différences. On peut voir beaucoup de différences en même temps, dans le même lieu.
Alors, dans ce lieu, il y a bien sûr des peintres contemporains français, mais il y a beaucoup aussi de peintres étrangers, quelques Chinois qui sont présentés aussi.
Oui, il y a une galerie qui est installée à Paris, qui présente les artistes chinois, qui fait la peinture à l'huile. Aussi qui fait la sculpture.
Qu'est-ce que tu penses du choix de ces galeries, qu'elles soient françaises, parisiennes par exemple, ou même belges, il y a des galeries qui viennent de Belgique bien sûr, dans cette foire internationale de l'art contemporain. Qu'est-ce que tu penses du choix de ces galeries et selon toi, est-ce qu'il manque des styles d'artistes chinois contemporains qui pourraient trouver leur place là, mais qui, faute de galeries qui supportent leurs projets ou peut-être de ce marché de l'art qui se définit un peu de manière un peu aléatoire. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'artistes qui pourraient venir dans ce lieu et qu'est-ce qui, selon toi, pourrait motiver les galeries à les faire venir?
Comme si pour les artistes et pour les galeries, ça dépend, je dis. Ça dépend des galeristes. Il y a des galeristes qui aiment bien les styles chinois. Et il y a beaucoup d'intérêt dans le marché d'art chinois. Donc il y a beaucoup de collectionneurs, il y a beaucoup de galeristes. Pour ça, il y a le marché d'art. Et pour l'artiste chinois, je trouve que ça dépend de la ville et ça dépend de l'artiste. Parce que je trouve, pour être un artiste, il faut avoir beaucoup de l'occasion pour montrer ses œuvres. J'ai vu il y a une banlieue, comme tu dis, il y a une banlieue à Pékin. Il y a beaucoup d'artistes, ils n'ont pas de location, ils connaissent pas les réseaux, on peut dire comme ça. Et donc il n'y a pas de l'espace pour montrer ses œuvres. Mais aussi il y a quelqu'un qui continue à travailler. C'est aussi, je pense, c'est la question pour les artistes du monde. Ça, selon les galeristes. Qui choisit les artistes. Donc, actuellement, ce qu'on a vu à Lila faire, pour ça, on trouve les différents styles, les différentes peintures, les différents genres, différentes façons pour présenter ses idées. Et voilà.
Donc, est-ce que quelqu'un ici a envie de présenter ses œuvres ou ses projets d'œuvres à des galeries qui seront présentes à Lila Faire, notamment jeudi soir dans le cadre de la Nuit de l'Art?
Oui, je m'intéresse beaucoup.
Tati.
Oui, Tati.
Donc, tu penses y aller et expliquer ce que tu fais à des galeries?
Oui. Maintenant, je travaille sur un projet avec les langues étrangères. Pour tout le monde, parce que j'ai une expérience. Parce qu'en Chine, on parle, sauf que le mandarin, il a beaucoup d'accent, spécialement du sud. Moi, je nais et vis au centre. Dans ma centre, il a moins d'accent. Si je suis être dans un groupe avec les gens qui viennent, les Chinois qui viennent du sud, s'ils parlent, je ne comprends rien. Et puis, en ce moment, j'ai une perception très, très triste. Parce que je pense que je ne peux pas faire un réalisme avec les autres. Et puis, quand j'arrive en France, les Français, grande partie de Français, ils ne comprennent pas la langue chinoise. Pour eux, c'est une langue, ils ne comprennent rien à rien. Et puis, quand, par exemple, si dans la rue, moi, je reste avec quelques étudiants, quelques copines, quelques copains chinois. On parle en chinois. Il a les Français qui passent. Quand il a entendu ça, il veut dire, faut parler français en France. Bah, c'est ça, je trouve, c'est pour tous les hommes, pour tous les humains, c'est un truc très intéressant. Pourquoi on n'en vit pas, écoute une langue étrangère, on ne connaît pas. J'ai une vidéo déjà faite, je donne les dizaines de mots très compliqués, très longs et difficiles à prononcer. Je fais une liste et puis je cherche les étrangers qui viennent d'Espagne, l'Allemand, les Coréens, la Chine, le Japon. Et puis je donne une liste pour eux. Je veux dire, faut lire les mots sans réfléchir. Et puis il a les gens ils les lisent c'est avec beaucoup de absence de prononce comme ça et puis je trouve c'est et puis quand on écoute il lit les mots il a une identité sur l'accent on peut trouver si on par exemple entre une chinoise et une coréenne quand les chinois écoutent le coréen qui lit les mots français sur l'accent on peut trouver oui il est coréenne. Mm-hmm. Je trouve ça, c'est intéressant.
On peut même dire, celui-là, il est de Canton.
Oui, comme ça.
Il est de Pékin, c'est pas pareil du tout.
Non. Mm-hmm.
D'accord. Donc ça, tu vas essayer d'aller présenter ce travail aux
Oui,
galeries.
Je veux bien. Oui.
Qui d'autre souhaiterait aller rencontrer des galeries pour présenter son travail?
Moi aussi.
Oui. Qu'est-ce que tu voudrais présenter en particulier, Kun?
Cette année, je travaille beaucoup sur la vidéo. Avant, je travaillais sur l'installation. Pour cette année, j'ai réalisé quelques projets par rapport au sujet de céréales. Par ce projet, je vais mettre quelques questions sur la nature équilibre, quand même, ou comme la guerre de céréales entre les pays du monde. Oui, j'aimerais bien présenter à quelques galeries pour montrer mon travail. Connaissez par public. Oui, j'aimerais bien. Mm-hmm.
Mm. Est-ce que votre école, donc l'ESA, vous permet d'aller voir ce salon dans de bonnes conditions? Est-ce que vous avez un accès gratuit, par exemple, là? Comment ça se passe? Peut-être une Suisse?
Non, je ne pense pas.
Non. C'est dommage, alors?
Oui, c'est dommage.
Bon, on va essayer de vous trouver des entrées en tant que Radio Campus, c'est ça?
Oui.
On va réfléchir à ça, alors, ouais, d'accord. Donc, l'île Art Fair, eh bien, c'est du 12 au 15 avril, que le jeudi soir, il y a une nuit de l'art qui durera un bon moment, donc avec des performances, etc. Et donc, n'hésitez pas, c'est au Grand Palais de Lille et c'est chaque année très intéressant. On retrouve parfois des œuvres qu'on a vues les années précédentes et on se dit, tiens, on les connaît, ceux-là. C'est vrai qu'il y a un aspect un peu familier, retrouver des œuvres. Alors, je ne sais pas si elles n'ont pas été vendues ou si elles sont encore représentées, mais c'est assez étonnant de retrouver des choses et de dire, tiens, celles-là, je les connais. On se les approprie finalement d'une année sur l'autre. Et puis, à chaque fois, bien sûr, il y a des nouveautés. Est-ce qu'il y a des tendances pour autant, ben je ne saurais trop le dire, chaque galerie est vraiment très spécifique, mais en tout cas on essaiera de faire des reportages là-bas, d'ailleurs si vous voulez, vous pouvez m'aider à interroger les artistes qui seront sur place, pourquoi pas, moi je suis à votre disposition pour que vous veniez avec moi et qu'on refasse dans une émission la diffusion de votre questionnement de ces artistes ou de ces galeristes par rapport à ce qu'ils présentent, ok?
Oui.
Voilà, vous êtes dans Onde de Chine, comme chaque premier samedi du mois entre midi et 13h. Toujours avec nos invités étudiants donc de l'ESA, Tourcoing, l'École supérieure d'art Nord-Pas-de-Calais. Et maintenant, eh bien, c'est l'occasion pour eux de nous livrer leurs réflexions et d'exprimer leurs problèmes ou leurs demandes, pourquoi pas. Donc voilà, on fait un petit tour de table. Qui veut intervenir? Oui?
Tiachi. Je vous parle entre les arts chinois classiques et l'art contemporain ou l'art conceptuel de l'occidentaux. Je crois que il y a un différent plafond de cette les philosophies sont différentes. Parce que les philosophies chinoises, pour nous, il est toujours, c'est une philosophie implicite, c'est-à-dire, il y a quelque chose, c'est pour, nous, c'est les visiteurs, les spectateurs, pour faire une perception sur cette œuvre. Et puis l'artiste, il n'en vit pas, explique tout, ou donne toutes les références ou toutes les explications. Mais les arts contemporains en France ou en occidentaux, ils veulent expliquer toutes les questions sur cette œuvre. Je crois que c'est un différent entre les deux arts dans le plafond.
Waiting.
Je veux dire, parce que en art contemporain, le plus important, c'est comment bien expliquer votre travail. Mais pour nos étudiantes étrangères, les langues françaises, c'est une question pour comment bien présenter. Donc, je pense, quand je fais un travail, je trouve en Chine, je ne peux pas dire beaucoup de choses pour présenter. c'est une sensation et le prof dit c'est pas dire beaucoup de choses donc mais ici je pense c'est un gros problème pour nous étudiants étrangers ça veut dire comment bien expliquer leur travail et le prof français me dit en art contemporain il y a trois parties les premières c'est esthétique et deuxième c'est social et humain et les dernières c'est histoire de l'art donc il faut présenter les travaux par les trois parties. D'accord. C'est comme ça.
J'ai entendu une fois, on parlait la différence entre langue française et langue chinoise, aussi langue italienne. Et ils sont dit langue italienne et français, ils sont extrêmement riches pour le mot, pour décrire quelque chose. Donc, avec la langue, on peut comprendre, par exemple, un objet. Complexe en fait. Mais en Chine, en langue chinoise, c'est une langue relativement subtile. Donc on n'aime pas parler des choses très claires. Donc par rapport à ce point-là, donc quand on travaille sur objet d'art, donc en Chine, le prof jamais demandait pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est rouge? Pourquoi c'est... On n'a jamais posé des questions comme ça. Mais en France, c'est le premier cours qu'on a pris. C'est tout le temps pourquoi. Pourquoi tu utilisais vidéo? Pourquoi tu fais pas le son? Pourquoi tu fais dessin? Pourquoi il y a cadre sur la photo? Enfin, toutes les questions par rapport à les choses comme ça. Donc, on n'a pas habitude de ces questions-là. Donc, une fois, on parlait avec des profs et moi, j'ai dit, est-ce que... le charme de l'art, c'est ça, c'est la subtilité. Donc, est-ce que si on a tout dit, on peut très bien écrire ou bien on parlait, par exemple, comme ça sur la radio, on n'a pas le besoin pour fabriquer, pour montrer l'objet d'art. Donc, moi, à mon avis personnel, une œuvre d'art, on peut... trouver la référence. On peut parler de motivation que le départ de création, mais on peut jamais parler clair, très clair, pourquoi en fait, mm-hmm. pour un objet d'art. Bon, c'est mon.
Moi, je rappelle un petit histoire sur l'art et. L'art de chinois, c'est par exemple, c'est comme un papier blanc et après juste dessine du poisson au milieu et laisse les gens réfléchir à l'eau, les plantes qui le poussaient sous de l'eau et le tableau de et l'art de urbaine, c'est juste dessine très précis. C'est suivi la règle des gens dessinent très très concret et l'art chinois c'est comme abstrait je pense laisse les gens images dans mes têtes je pense.
Et moi, j'ai envie de suivre la question de Yao Hong. Moi, je pense comme la peinture chinoise. Et il n'y a pas vraiment le perceptive. Et pour ce phénomène, on peut imaginer pour les artistes chinois qui travaillaient sur le domaine de peinture chinoise, on est toujours envie d'exprimer leurs sensations, leurs sentiments par rapport à leurs idées. Mais ici, quand on a pris les d'art classique et d'art contemporain. Par exemple, je prends un exemple de tableau aussi. Et on peut trouver facilement le perceptive, même pour peindre un homme ou peindre une nature morte, on trouve la couleur, on trouve les éléments qui se composent sur un tableau. C'est très précis, la couleur. Mais pour nous, sur la peinture chinoise, on est toujours utilise les couleurs ce qu'on veut. C'est ça le différent. Aussi, je pense pour les artistes chinois, pour la peinture chinoise, on a aussi le système de référence. C'est référencé par les anciens peintres et aussi ça référencé les bohèmes chinois. Donc ça, c'est le différent. Et jusque de l'art contemporain, ça vient du monde occidental. Et chez nous, ça manque de la racine. Pour ça, quand on sommes arrivés en France, on ne sait pas comment on peut travailler sur la référence parce qu'on n'est pas de la connaissance. On ne sait pas vraiment de l'histoire de l'art. Donc, je crois que ça, c'est le différent entre les deux pays et entre les deux cultures.
Je crois que ce phénomène, c'est temporaire, en fait. C'est une période nécessaire pour un pays émergent, en fait. C'est comme l'année après la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et dans le design architecture, dans le domaine architecture, et les Américains aussi, ils sont recopiés le style de Bauhaus. Il fait des maisons avec le mur vitrine et le béton, des modules, en fait, de cubes comme ça, pour les gens bourgeois, pour des gens luxe. En fait, au début de cette style d'architecture vient de l'Allemagne, c'est avec l'idée de sociale, en fait, pour partager, pour faire des maisons moins chères pour tout le monde, en fait. Mais ils sont recopiés de style de Bauhaus, en fait, c'est pas la même fonction, en fait, parce qu'il manque de connaissances, il manque des racines, manque des origines, en fait. Mais petit à petit, ils sont changés, devient un style international, après amélioré, devient un style américain. Donc maintenant, on a accepté le style américain. Comme l'art contemporain chinois, au début, on apprend sur l'œil, c'est pas sur l'histoire d'art. Après, petit à petit, après 2008, il y a beaucoup de nouveaux peintres, nouveaux artiste chinois qui fait un style très très chinois, en fait. Je crois pendant après 10 ans ou 20 ans, la Chine va créer un propre style dans l'art contemporain, je crois.
Très bien, et eh bien merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission, et donc bonne continuation, bonnes idées, bonnes réflexions et bonnes créations. Au revoir, merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci. Merci.